Nous sommes Lily, Océane,
bonjour,
Charlie,
bonjour,
Cassandre, Cassandra et Amélie, ainsi qu'Ambre à la régie.
Hello.
Le 2 avril, nous nous sommes rendus avec le Radio Lab aux locaux du journal Le Monde, puis à une visite de la maison des journalistes. Nous avons pris le train direction Paris. La première étape de notre trajet, le journal Le Monde.
Lors de cette conférence, nous avons pu faire la connaissance d'Hélène Pagési et de Célène Agapé, deux social media editors. Donc c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis de Francesca Fattori, qui est cartographe et infographe. Et finalement, celle de Cécile Cazeneuve, qui gère le podcast Chaleur Humaine. On vous propose d'écouter notre entretien avec Gilles Vancotte, directeur adjoint au lecteur.
Je suis Gilles Vancotte, je suis directeur délégué du Monde, chargé des relations avec les lecteurs. C'est-à-dire que je développe des espaces de dialogue entre les journalistes du Monde et les différents publics.
Concrètement, comment vous pratiquez votre métier au quotidien ?
Alors, il y a beaucoup d'aspects. Il y a un aspect physique, de rencontre physique. Par exemple, moi, je reçois tous les mois des abonnés qui viennent passer une matinée au Monde. Je reçois des scolaires ou des étudiants qui viennent rencontrer la rédaction du Monde. J'organise deux festivals, le Festival du Monde et le Festival de journalisme. Donc, on rencontre, c'est l'occasion de rencontrer aussi nos lecteurs et tous les gens qui s'intéressent aux médias et à l'info. Et puis, je fais un chat tous les mois en direct sur lemonde.fr où je réponds aux questions sur le Monde. Donc là, c'est tous les internautes qui sont concernés. Et je supervise le courrier des lecteurs du Monde. Ça veut dire que des gens qui écrivent au Monde, tous les courriers qu'on reçoit sont lus, sont adressés aux journalistes concernés et éventuellement on leur répond. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de façons d'interagir avec les gens et puis on développe de nouveaux formats. Par exemple, on a lancé récemment les amphis de l'info. C'est des rencontres qui ont lieu sur des campus universitaires destinés aux jeunes adultes, mais ça va des lycéens jusqu'aux jeunes travailleurs, pour parler de l'info, de la désinformation et de l'IA.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la matinée, les intervenants qui sont venus parler et nous dire l'objectif de cette matinée finalement ?
L'objectif de la matinée, c'est déjà de répondre aux demandes des classes, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes d'enseignants qui nous contactent pour savoir s'ils peuvent venir rencontrer, visiter le Monde et rencontrer la rédaction. Alors ça, c'est des sessions qu'on organise deux fois par mois. Ce ne sont pas des visites, parce qu'on ne peut pas emmener des dizaines et des dizaines d'étudiants ou de lycéens dans les locaux du Monde. Ce sont des sessions lors desquelles les groupes rencontrent quatre journalistes différents qui viennent leur présenter leur métier, leur fonction et répondre à leurs questions. C'est très interactif, très, très dynamique. Et donc ce matin, le groupe qui a été composé de six groupes de lycéens plus votre Radiolab, il y avait quatre rencontres. Donc moi, qui ai fait une présentation générale. Donc moi je suis Gilles Vancotte, directeur délégué du Monde. Ensuite il y avait Hélène Pagési qui est social media editor, donc elle poste des contenus du Monde sur les réseaux sociaux. Ensuite il y avait Francesca Fattori qui est infographiste, donc qui produit des cartes, des infographies sur les supports et papier et numérique du Monde. Et enfin Cécile Cazeneuve qui produit un podcast sur la question de l'urgence climatique et de la transition écologique, qui est venue raconter ce qu'elle faisait et répondre sur ces questions aux questions des jeunes.
C'est en quelque sorte de l'éducation aux médias. En quoi c'est nécessaire de faire ça ?
C'est effectivement de l'éducation aux médias, à l'information. C'est aussi de la pédagogie, de la transparence. Bah, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans un paysage de l'information très chahuté. On est exposé à des flux d'informations dans lesquels il y a des informations inexactes, il y a des informations trompeuses, il y a des fake news. Et que donc, il y a un moment, il faut reprendre le contrôle de sa propre information. Et pour comprendre le contrôle de sa propre information, il faut comprendre ce que c'est qu'une information, comprendre comment fonctionnent les médias. Et c'est le but de ces rencontres, c'est d'expliquer à des groupes de jeunes, lycéens, collégiens, étudiants, comment fonctionnent les médias, que font les journalistes, qui ils sont, et de voir que c'est des gens comme les autres, mais qui ont un travail, qui ont des techniques, qui ont des méthodes, qui ont des principes, qu'ils essayent d'appliquer au jour le jour. C'est un métier avec de fortes responsabilités, c'est un métier qui porte un enjeu démocratique, et c'est pour ça que c'est important que les citoyens, les citoyennes que nous sommes tous, comprennent quels sont les enjeux, quelles sont les façons de fonctionner de ces gens.
Quelle place accordez-vous au journalisme d'investigation ?
Le journalisme d'investigation, c'est là une des bases du journalisme, c'est-à-dire l'enquête, c'est ce que font tous les journalistes. Alors le journalisme d'investigation, on pense à des grandes enquêtes, mais en réalité, tout ce qui est reportage, tout, c'est de l'investigation, c'est de l'enquête, c'est le travail du journaliste d'aller collecter de l'information. Et l'investigation, c'est un côté un peu noble, on va dire, le plus noble de ce métier, c'est assez prestigieux. Mais l'investigation, c'est au cœur du métier de tous les journalistes, et c'est très important parce que c'est ce qui permet de révéler les choses qui sinon restent cachées. Et c'est aussi le travail des journalistes de révéler au public, à leurs lecteurs et lectrices, des choses que des personnes, pour des raisons diverses, essayent de dissimuler. Les scandales ou des phénomènes d'évasion fiscale, des phénomènes d'espionnage numérique. Enfin, c'est pas forcément des scandales, mais c'est des enquêtes, c'est des sujets qui sont lourds et qui sont importants, effectivement.
J'aurais une dernière question un peu plus, pas politique, mais plus orientée. Vous avez insisté tout à l'heure sur la lutte contre l'extrême droite par l'information. Comment arrivez-vous à inciter les jeunes à regarder vos contenus, faire l'esprit critique au sein de la jeunesse ? Parce que nous, on sent, j'ai justement des gens qui, de plus en plus, dans ma classe, etc., qui tournent très vite vers l'extrême droite. Comment réussissez-vous à faire un barrage face à l'extrême droite ? C'est un peu ma question.
Nous, on n'est pas un journal militant, donc notre mission, c'est d'informer et c'est d'éclairer nos lecteurs et lectrices pour qu'ils se forgent des opinions. Alors, notre position sur l'extrême droite a toujours été très claire depuis la création du Monde. On s'oppose à toute accession du pouvoir, au pouvoir de l'extrême droite, et quand il le faut, on prend position là-dessus. Maintenant, on ne passe pas notre vie à taper sur l'extrême droite, ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des journalistes militants, nous sommes des journalistes. Nous, on ne fait que raconter, donc on raconte ce qui se passe dans tous les partis politiques, dans tous les mouvements politiques, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, comme à l'extrême centre. Voilà. Par contre, effectivement, on ne lâche pas les mouvements d'extrême droite, que ce soit le Rassemblement National, Reconquête ou les autres. On raconte ce qui se passe, leurs projets. On voit bien qu'il y a une partie importante de la population qui est aujourd'hui proche d'eux et qui vote pour eux, puisque le RN est le premier parti de France depuis maintenant quelques années. Maintenant, il nous semble important de continuer de dire que ce sont des partis qui s'appuient sur un socle de valeurs qui font que ce sont des partis d'extrême droite, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire, et que le jour où ils seront au pouvoir, ils appliqueront une politique d'extrême droite. Donc, c'est informer les gens. Et enfin, sur la partie éducation aux médias, on reçoit 2500 scolaires et étudiants chaque année ici dans notre auditorium, et nos journalistes se rendent dans les classes, dans le secondaire, dans le primaire, pour faire des ateliers d'éducation aux médias. Et ça, c'est important pour que, encore une fois, tous les jeunes puissent prendre des décisions en connaissant le monde dans lequel ils évoluent, en les prenant en connaissance de cause.
Nous avons ensuite organisé un micro-trottoir auprès des autres jeunes présents dans l'amphithéâtre pour assister à la conférence. On écoute leurs réponses.
Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence ?
Je trouve qu'elle était vraiment très très intéressante parce que justement nous on est venus avec notre classe parce qu'on fait la section médias et journalisme au lycée. Et le fait du coup qu'on vienne dans les locaux du Monde, franchement je m'attendais pas du tout à que ce soit comme ça, hein. Et vraiment c'était trop bien.
Franchement, j'ai trouvé ça pareil, très intéressant. On a découvert plein de trucs, que ce soit sur l'écologie ou même comment ça se passe tout derrière dans les backstage finalement. Donc on a appris plein de trucs. Puis le fait de pouvoir poser des questions, pouvoir interagir, je trouve que c'est franchement cool. Donc bonne expérience.
J'ai trouvé que la conférence, elle était très intéressante puisqu'il y avait énormément d'informations. Et moi, personnellement, l'actualité, c'est un sujet qui me touche. Et je lis le journal Le Monde, donc c'était très intéressant de pouvoir assister à cette conférence.
Moi, j'ai bien aimé, c'était assez intéressant. Comme je veux un petit peu travailler dans ce milieu-là, moi, je trouve ça, oui. Les deux premiers sujets, personnes qui sont passées m'ont beaucoup plu. Après, c'était moins des sujets que j'aimais, qui m'intéressaient moins les deux suivantes.
Et est-ce que vous, le journalisme, c'est quelque chose qui vous tente ou pas dans l'avenir ?
De base, non. Je me suis juste inscrite à cette section pour apprendre de nouvelles choses, pour me diversifier, parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire. Mais maintenant, là, on est en voyage à Paris, en voyage scolaire depuis une semaine, et du coup, on a visité plein de trucs. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant depuis que j'ai plus travaillé dans le sujet. Et en vrai, pourquoi pas dans le futur en...
Moi, au début, franchement, pas trop. Mais je me dis en vrai pourquoi pas.
Ok, super, merci beaucoup les filles.
Moi c'est pas trop quelque chose qui m'intéresserait pour plus tard, mais je trouve ça intéressant de voir les gens qui arrivent à s'ouvrir aux autres, à parler comme ça devant un énorme public, je trouve ça bien.
Et moi du coup c'est un domaine qui me plaît beaucoup, et j'ai particulièrement aimé la dernière, je trouve qu'elle a beaucoup de peps et tout, et je trouve que pour les podcasts ça peut être assez intéressant. J'ai pas écouté ces podcasts, mais je pense que je vais aller jeter un coup d'œil.
L'après-midi, nous nous sommes rendus à la Maison des journalistes, qui est une association fondée en 2002 par la journaliste Danielle Ohayon et le réalisateur Philippe Spineau. Elle accueille et accompagne des professionnels des médias contraints à l'exil, venus trouver refuge en France. Nous avons pu visiter la structure, rencontrer et interviewer Jean-Samuel Mentor, reporter, rédacteur pour le média L'Œil de la Maison des journalistes.
Je suis Jean-Samuel Mentor, je suis journaliste haïtien et je suis réfugié politique depuis 2023 en France. Je faisais de l'investigation en Haïti contre les pouvoirs politiques, des hommes d'affaires et des policiers qui sont corrompus. C'est triste de le dire étant haïtien, parce qu'en Haïti, la corruption devient un peu la norme. Donc du coup, si vous n'êtes pas corrompu, c'est que vous êtes anormal quand vous êtes dans le pouvoir politique. Et moi, je faisais des enquêtes, surtout mon média était spécialisé sur ça. Je faisais des enquêtes qui sont liées avec la corruption, blanchiment d'argent, vente d'armes illégales.
Ça lui posait un peu problème, je pense.
Effectivement, ça posait un peu problème avec des policiers qui avaient des compagnies privées de sécurité, des hommes d'affaires qui avaient des compagnies privées de sécurité. Aussi, ça posait problème avec des pouvoirs politiques, parce qu'il y avait des anciens sénateurs, des anciens députés qui avait aussi des compagnies privées de sécurité. C'est un moyen, c'est une commesse juteuse pour ces hommes d'affaires.
Concrètement, ça se traduisait comment? C'était des menaces
Concrètement, en Haïti, quand vous faites des enquêtes, d'abord on vous menace, on vous offre des pots de vin. Pots de vin, c'est-à-dire combien vaut cet article, combien vaut ce reportage. Et on vous donne des milliers et milliers de dollars américains. Après, si vous avez une éthique, vous dites, bon, je travaille, je fais une éthique, je respecte le métier, la déontologie du métier. Et là viennent les menaces par téléphone, on vous suit, on sait la couleur de votre voiture. Et là, si vous persistez pour publier l'article, si l'article est publié, vous êtes menacé, même de mort. Par exemple, moi, ma maison a été criblée par balle parce que j'étais ici en France pour un prix, pour le prix Bayeux, Calvados, Normandie, des correspondants de guerre. Ma maison a été criblée par balle. De retour en Haïti, il y avait des policiers qui m'attendaient à l'aéroport. Mais heureusement, je ne les ai pas suivis grâce à un ami qui, lui aussi, il est policier. Il m'a dit non, on ne doit pas suivre... On ne doit pas suivre ces policiers parce que si vous les suivez, vous allez être à la prison civile de Port-au-Prince. Et entrer dans la prison civile de Port-au-Prince, c'est facile, mais sortir, c'est extrêmement difficile parce que toutes les institutions sont en berne en Haïti. Donc du coup, oui, ma maison était menacée, ma femme était menacée, qui est aussi journaliste, on travaille sur le même sujet. Et du coup, j'ai dû quitter quelques semaines plus tard Haïti. Et depuis lors, depuis 2023... Ça fait presque 3 ans, je ne peux pas retourner.
Je sais qu'il y a des liens entre la France et Haïti. Haïti, c'est un ancien territoire français. Du coup, il y a eu son indépendance très tôt et il y a une dette qui est envers la France. Du coup, il y a des liens qui sont entre la France et Haïti. Et Haïti doit rembourser la France. Il y a une injustice à propos de ça, je crois.
Voilà, on parle de la double dette de l'indépendance. La double dette, c'est quoi? C'est que Haïti, qui est une ancienne colonie de la France, a pris son indépendance le 1er janvier 1804. Mais il y a le roi Charles X, qui n'était pas content avec cette indépendance, a demandé à Haïti de payer cette dette. Je crois que ça équivaut à près de 150 millions de francs en or. Et c'était beaucoup à l'époque. Ça équivaut maintenant, selon les économistes, à près de 11 milliards d'euros. Et donc, du coup, Haïti a dû payer cette indépendance pendant plusieurs années, plus de 20 ans. On a payé l'indépendance. Là, c'était une première dette. La deuxième dette, pourquoi on l'appelle la double dette, c'est qu'il y avait une banque française à l'époque qui est CIC maintenant. CIC, c'est une banque française, mais à l'époque, c'était pas le nom, qui a décidé de prêter à Haïti de l'argent pour rembourser cette dette avec des taux exorbitants. Très, très haut. Donc, du coup, c'est pour ça que les économistes, les historiens, ils parlent de la double dette de l'indépendance.
Vous disiez que vous avez dû quitter le pays. C'est est-ce que, encore une fois, vous avez eu des menaces ou vous aviez peur d'aller en prison ou c'est de votre plein gré donc que vous êtes parti?
De mon plein gré, je suis parti, mais à cause des menaces, comme je vous l'avais dit, et ma maison a été criblée par balles par des groupes armés. Mais en Haïti, et personnellement, je travaille sur un sujet qui me l'est, qui embrassait tout le monde. Il y avait des hommes d'affaires qui ont été impliqués, des anciens sénateurs, anciens députés. Il y avait des hommes, des policiers, des cadres de l'administration pénitentiaire. Il y avait des policiers, des hauts gradés. Et même le directeur général de la police à l'époque, j'étais menacé par lui parce que mon nom, j'avais avis de recherche, bon, pas officiellement, mais tous les groupes WhatsApp des policiers, il faut qu'on arrête Jean-Samuel Mentor, c'est un journaliste qui... Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, mais j'étais dans tous les groupes WhatsApp des policiers, comme j'avais un avis de recherche derrière moi.
Vous nous avez parlé de votre femme, est-ce qu'elle a eu le même parcours que vous, ou vous avez eu des parcours très différents du coup avec ces histoires en Haïti?
Similaire, je vais vous dire, parce qu'elle est journaliste aussi. On a cofondé notre média après le Covid parce que c'était difficile économiquement dans les pays, bon, dans la majorité de pays. Et les médias ont dit nous mettre en disponibilité sans solde. Donc, du coup, on s'est croisés. Et comme on est journaliste, on a décidé de cofonder notre média avec 12 autres journalistes. On voulait aussi faire un média indépendant où on ne dépend de personne. Donc du coup, elle est journaliste enquêtrice aussi. On a travaillé sur plusieurs sujets. Et sur ce sujet de compagnie privée de sécurité, on a travaillé aussi. Même si les sujets de prédilection d'elle, elle parle plus des violences faites par les gangs en Haïti sur des femmes. Donc du coup, elle a été primée pour un de ces sujets aussi, pour un de ces reportages. Mais comme on était une petite équipe, quand on travaillait sur un gros sujet, toute l'équipe se mettait ensemble et du coup, elle travaillait aussi sur une grosse enquête qu'on menait qui était sur les compagnies privées de sécurité. Oui, on a des parcours similaires, on a eu des prix ensemble, on a gagné des prix ensemble. Quand je travaillais sur un reportage, je demandais sur ses idées et elle aussi, c'était pareil. Ouais.
C'est juste pour revenir sur l'article sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous avez quand même pu le publier à la fin malgré les menaces ?
Malheureusement, non, on n'a pas publié cet article, cette enquête qui était sur les compagnies privées de sécurité pour plusieurs raisons, parce qu'on a commencé en 2022 à travailler sur cette enquête. J'ai quitté Haïti en 2023 et en 2023, il y avait encore des journalistes qui travaillaient avec moi. Par exemple, moi, j'ai été infiltré, c'est-à-dire de manière sous couvert, l'anonymat du journaliste. On ne savait pas que j'étais journaliste. J'allais dans une compagnie privée comme quoi je voulais travailler. Il y avait deux autres collègues aussi qui ont fait la même chose, qui ont infiltré une compagnie privée comme quoi ils voulaient travailler comme agent de sécurité. Et on a dû découvrir notre identité. Et moi, j'étais à la recherche. On savait que je voulais pas vraiment travailler dans cette compagnie. J'étais un journaliste et c'était pareil pour les autres journalistes aussi. Et du coup, quand j'ai laissé Haïti, ses collègues, ils sont restés encore en Haïti. Et là, j'ai continué à travailler, mais je voulais publier, mais ses collègues, ils ont continué à recevoir des menaces. Bon, maintenant, ils ne sont plus en Haïti. Pour le moment, Haïti News 2000, on est tous des réfugiés parce qu'il y en a des journalistes qui sont partis aux États-Unis. Moi, je suis parti vers la France. OK, ça va, je pensais publier l'année dernière. Mais le problème, c'est que la famille de ces journalistes, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils sont menacés maintenant. Là, maintenant, ils ne peuvent plus travailler sur le sujet parce qu'ils sont au courant que j'allais publier quand même cette enquête. Et là, je me suis retenu jusque-là. L'article est prêt. On a besoin que seulement des droits de réponse, c'est-à-dire des droits de réponse, pour aller voir les gens pour qui sont impliqués, pour leur donner, voilà ce qu'on a eu sur toi, sur vous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est sûr, ils vont dire que c'est faux, mais quand même, c'est une information. On va publier quand même. Mais le problème, c'est que jusque-là, je souhaite publier l'article. C'est une grosse enquête. Mais le problème, c'est que la famille de ces journalistes, malgré qu'ils ont quitté Haïti, c'est toujours menacé. Il y a des menaces sur leur mère. Et même, il y a un frère de mes collègues qui a été kidnappé à cause de cet article. Kidnappé, on a dû verser plusieurs milliers de dollars américains. Et pour le libérer, ben maintenant, je ne peux pas publier l'article tant qu'on n'a pas la certitude que ces personnes, ils sont toujours là pour menacer nos collègues ou nos confrères. Donc du coup, jusque-là, non, je ne peux pas publier l'article.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez encore d'Haïti, ici en France? Ou alors, vous préférez pas? Où est-ce que vous travaillez? Expliquez-nous un peu votre situation.
En fait, oui, je collabore avec des confrères qui me sollicitent assez souvent pour parler de Haïti. Et là, actuellement, je travaille sur un sujet qui est lié entre la France et Haïti. Bon, je peux vous le dire, c'est un sujet que tout le monde sait, mais nous, en tant que journalistes, on va aller beaucoup plus en profondeur sur des milliardaires qui influencent, comment les milliardaires ici influencent la politique haïtienne ou collaborent avec certains bandits. Oui, je collabore avec des confrères français et aussi j'interviens dans des médias quand on me sollicite pour parler de Haïti parce que je connais très bien la situation. Je fais des piges aussi, c'est-à-dire j'écris ou bien je fais des reportages sur Haïti. Et là, je travaille avec la Maison des journalistes pour la liberté de la presse et la promotion. Je suis chargé d'édition et j'ai mon propre média aussi qui collabore. Je collabore avec d'autres journalistes qui sont dans des situations pareilles que moi, que ce soit des journalistes réfugiés ou bien qui défendent la liberté de la presse. Et voilà, c'est ça. Je continue à parler de Haïti et je continue à travailler sur Haïti. Comme je vous le dis, je travaille avec des confrères français, suisses, belges sur Haïti. Ouais.
C'est quoi le nom de votre média pour qu'on puisse vous suivre?
J'ai un média qui est totalement différent parce que quand j'ai pris l'exil en arrivant ici et j'ai mon statut de réfugié, j'ai vraiment, je peux dire, l'exil a modifié aussi ma façon de voir le métier. Et comme j'ai été avec beaucoup, beaucoup de, pas journalistes, mais de personnes qui étaient des demandeurs d'asile, parce qu'en arrivant ici, je faisais du bénévolat dans une association qui accompagne des demandeurs d'asile, des réfugiés. Et du coup, j'ai écouté tellement, tellement d'histoires. Avant, je voulais faire 2-3 reportages pour expliquer les histoires de ces personnes. Et au final, je me suis dit, avec le conseil d'un programme qui s'appelle Vont en exil, qui accompagne des journalistes réfugiés en France. Et ils m'ont conseillé de créer une plateforme pour les personnes migrantes en France. Et donc, du coup, mon média s'appelle Éco-Migrant. Et donc, du coup, là, je vais faire de l'investigation aussi, comme c'est quelque chose que je faisais déjà et que j'aime faire aussi. Et je vais faire de l'investigation sur le sujet migratoire. Ça s'appelle Éco-Migrant, le média. Éco-Migrant.
Du coup, vous êtes des fois sur le terrain, vous faites de l'investigation, comme vous dites. Vous y allez et puis vous regardez, vous faites des témoignages, etc.
Effectivement, l'idée c'est ça, c'est faire de l'investigation sur le terrain, parce que bon, on est des journalistes desk, c'est-à-dire rester à la rédaction. On a lancé le média cette année même, 2026. Donc du coup, on a déjà une enquête qui est en cours, qui parle aussi de ça. Mais vraiment, oui, c'est ça, c'est aller sur le terrain, que ce soit dans les camps, que ce soit dans des préfectures, pour voir comment, pourquoi, est-ce qu'il y a beaucoup de lenteur, tout ça, dans les préfectures, que ce soit aller et voir, pour faire de la vulgarisation aussi, vulgarisation, c'est-à-dire expliquer, voilà, ce que vous voyez ici, est-ce que c'est une fake news, on fait du fact-checking, mais on va expliquer avec des experts le sujet exactement, parce que ça fait peur beaucoup en France, et il y a beaucoup, beaucoup de fake news, beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui est relayée par des médias. Voilà, on va faire ça. C'est ça, c'est l'idée même de ce média.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'ici, de la maison des journalistes, et en quoi ça vous a aidé dans votre parcours ?
En fait, la maison des journalistes, je suis arrivé à la maison des journalistes grâce à un programme qui s'appelle Voix en exil. Je ne connaissais même pas la maison des journalistes parce qu'en arrivant ici, j'étais plus basé dans le sud, dans le département du Var, à Toulon. Et grâce à un programme qui s'appelle Voix en exil, le programme accompagne les journalistes, et les héberge aussi et les accompagne sur leurs projets. Et depuis que je suis arrivé à la maison des journalistes, j'ai eu pas mal de connexions, c'est ce qui me manquait aussi. Et surtout le métier journaliste, ça demande beaucoup de connexions. Il faut avoir un réseau pour travailler, pour fonctionner. Et c'est ce que m'a apporté la maison des journalistes, c'est ce réseau. Le réseau, parce que là, on va, par exemple, on va rencontrer des journalistes locaux, des journalistes locaux, des journalistes qui sont réfugiés dans notre situation. On peut travailler sur un sujet, on a beaucoup plus d'idées, on va plus vite aussi. Et puis, on peut trouver des piges. On peut trouver pas un travail à temps plein, mais des pistes, c'est-à-dire on fait un article, on le vend, cet article à une rédaction, on fait un reportage, on intervient dans les médias. Et ça, c'est fondamental pour un journaliste. Et puis il y a ce programme qui est phare, qui s'appelle Renvoyé spécial. On va dans les collèges, on leur explique voilà ce qu'est la liberté de la presse. On est journaliste, on aime parler. Et quand il y a la parole, quand un journaliste trouve la parole, ça lui fait du bien de parler, de continuer à parler. Faire de l'éducation média à l'information, participer à des ateliers. Et pour un journaliste, c'est essentiel. Et imaginez-vous un journaliste qui est resté dans un coin, qui attend. C'est extrêmement compliqué pour lui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes en arrivant en France qui sont obligés de faire d'autres choses. Premièrement, il y a la barrière de la langue, mais aussi ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas de réseau. Et c'est ce que m'a apporté la maison des journalistes. C'est ce réseau avec beaucoup de collègues, beaucoup de confrères. Et vraiment, ça, quand tu es à la maison des journalistes, si tu as une idée de continuer à rester dans le métier, ça va vous aider beaucoup. Et c'est ce que m'a apporté. Et la preuve, après, j'étais résident ici, j'ai passé 6 mois ici. Après, voilà, je suis engagé par la maison des journalistes. Et c'est ça l'idée. Continuer à rester journaliste, ça va vous inspirer. Bien que il n'y a pas tous les résidents qui se sont passés ici, qui continuent avec le métier. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a le déclassement social aussi. Et certains décident de se reconvertir.
Donc vous parlez d'Haïti. Est-ce que vous avez justement des contacts, comme des correspondants en fait, dans le pays ? Est-ce que vous ne craignez pas justement, comme vous parlez d'Haïti, encore qu'on vous menace, qu'on vous retrouve ?
Moi, je suis totalement connecté, surtout en Haïti, quand vous êtes journaliste et vous faites partie des forums, beaucoup, beaucoup de forums. Je suis connecté, je parle avec eux. D'ailleurs, c'était l'un de mes problèmes parce que je suis trop, trop connecté à Haïti. Et les informations qui me parviennent, je les vois vraiment d'une autre manière parce que je ne suis pas sur le terrain et ça me fait plus peur, ça me choque beaucoup plus. Comme quand j'étais sur le terrain, c'est différent. Ça me fait plus peur parce que je parle maintenant de manière plus générale, expliquer la situation. Et si je fais une enquête, c'est plus enquête papier. Donc, du coup, je ne suis pas vraiment devant de la scène. Quand je parle de l'insécurité, je parle comment c'est en Haïti, comment je l'ai vécu. Donc du coup, je ne pointe pas du doigt quelqu'un. Je ne suis pas menacé en ce sens. Mais par contre, je sais, si je parle d'une chose, je vais être menacé. Donc du coup, je limite très, très assez pour ne pas froisser que ce soit ma famille qui est restée en Haïti ou bien d'autres confrères qui me partagent des informations.
Et du coup, est-ce que vous voudriez retourner en Haïti? Et si oui, est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop dangereux? Est-ce que vous pensez que c'est possible même d'y retourner?
Mais honnêtement, ce n'est pas possible. Mais franchement, je vous le dis dès les premiers mois qui ont suivi. Parce que j'avais l'habitude de voyager. Parce que moi, j'ai fait presque toute l'Afrique de l'Ouest. Mais c'était pour des visites, 6 mois, un mois, 2 semaines, ou bien des visites pour, dans le cadre de mon travail. J'avais l'habitude de venir en France presque 2 fois par an, mais c'était dans le cadre de mon travail et ça ne dépassait jamais 6 mois. Et dès les premiers mois qui ont suivi, sachant que je vais rester en France, parce que quand vous êtes réfugié, vous avez le statut, vous avez une carte de 10 ans, vous ne pouvez pas retourner pendant ces 10 ans dans ton pays d'origine. Et là, en suivant ma carte de résidence, sachant que je ne peux pas retourner en Haïti, sauf en cas, vraiment, si j'ai une proche qui est morte ou bien si j'ai vraiment une urgence, je peux demander une sauf-conduit, un papier pour aller en Haïti pendant 15 jours. Et là, c'est difficile. C'est extrêmement difficile, sachant que je ne peux pas retourner en Haïti pour le moment. Alors, je peux retourner de ma propre volonté, sachant que je vais perdre mon statut de réfugié. Si tous les paramètres se réunissent pour que je retourne en Haïti, franchement, je vais y retourner. Parce que ça me manque, mon quotidien me manque. Parfois, surtout la nuit, c'est extrêmement difficile. Bon, c'était plus difficile avant, mais maintenant, ça reste toujours. Il y a des nuits, c'est difficile, on pense à Haïti. Par exemple, quand vous parlez avec une proche, un ami, un confrère qui vous explique, voilà, vous écoutez le son de la rue. Et c'est toujours chaud en Haïti. Quand je dis chaud, en plus de la température, parce qu'on est toute la saison, toute l'année, on a une température de 26 degrés, mais tu entends toujours le bruit des voitures. Ça, franchement, ça me manque. Si j'ai la possibilité d'y retourner, si tous les paramètres se réunissent dès demain, franchement, j'y retournerai. Mais pour le moment, non. Il n'y a pas de vol maintenant sur Haïti, parce qu'il y a une insécurité grandissante, il n'y a pas de connexion Haïti avec la France. Et il n'y a qu'un vol qui se fait Haïti et Miami. Mais ça se fait par presque tous les jours. Pour aller en Haïti actuellement, il faut passer par États-Unis. Ou sinon, vous pouvez passer par République dominicaine et passer sur la frontière République dominicaine et Haïti. Mais ça reste très, très compliqué pour aller en Haïti pour le moment. Franchement, c'est très, très compliqué.
Vous avez parlé du régime de corruption, tout ça. Est-ce que vous espérez qu'à un moment, les gens soient, par un moyen extérieur, informés de la situation du pays, au niveau de la corruption, etc. Peut-être une révolution populaire, même si c'est compliqué, etc.
Alors, pour être honnête, la corruption, c'était purement journaliste, mais ce n'est pas vraiment la chose qui fait peur en Haïti. La chose qui fait peur en Haïti, c'est l'insécurité. Ce sont les gangs même. Et la corruption, bon, ça implique aussi les gangs, parce que c'est parce qu'on a un État corrompu qui part dans les ghettos, dans les quartiers, et donne des armes avec des jeunes de 16-17 ans. La moyenne d'âge des jeunes qui sont dans les gangs, c'est 20 ans. Il y a même des jeunes 12 ans qui sont armés en Haïti. Et c'est à cause des politiques. Pour gagner les élections en Haïti, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des armes. Et pendant les périodes électorales en Haïti, il y a des politiciens qui sont partis dans les ghettos pour gagner les élections dans ces quartiers populaires. Ils offrent aux jeunes des armes très, très lourdes, des armes automatiques et de l'argent. Et parfois, il y a 5 sénateurs, il y a 5 députés, et les jeunes, ils se réunissent entre eux. C'est une sorte de vente aux enchères. Celui qui donne beaucoup plus d'argent va gagner les élections. Ça met 10 000 dollars américains, ça met 3 000 dollars américains. C'est celui qui a beaucoup plus d'argent qui va gagner les élections dans ce quartier. Et après les élections, ces armes, ils sont restés dans les mains de ces jeunes. Maintenant, pour continuer à avoir de l'argent, ils vont faire autre chose qui est le kidnapping. Kidnapping contre rançon. Parfois en Haïti, si on kidnappe une famille ou bien une jeune femme, d'abord on le viole, c'est triste, et puis on demande 1 million de dollars américains, 500 000 dollars américains, $400,000. On sait que la famille n'a pas cet argent, cette somme faramineuse. Mais quand même, on le demande pour quand on descend à $100,000, $200,000. C'était une source de financement pour ces groupes armés. Maintenant, depuis 2022, ils sont autosuffisants. Ils ne font presque plus de kidnapping. Maintenant, ils sont connectés avec des cartels de drogue dans l'Amérique du Sud, colombien, Mexique et nicaraguayen. Ils sont très puissants maintenant. Ils sont des groupes vraiment autosuffisants. Ils n'ont plus besoin de l'argent des politiciens. Maintenant, ils sont connectés avec d'autres cartels de drogue dans la zone.
Est-ce qu'il y a des politiciens qui mènent des politiques anticorruption, du coup, qui sont aussi menacés, des politiques qui veulent du coup, se débarrasser des cartels et du coup, qui sont peut-être tués ou menacés?
Non, on n'en a pas. Et c'est ce qu'on manque aussi, des hommes politiques comme ça, qui peuvent éradiquer ces gangs. Et malheureusement, il faut le dire aussi, on ne l'a pas, mais malheureusement, c'est le poids de certains pays de la communauté internationale, y compris les États-Unis. On est vraiment à 30 minutes des États-Unis et tout ça passe en Haïti. Et le gouvernement américain n'a jamais fait quelque chose vraiment de concret pour éradiquer les gangs. Bon, la France, on a une très bonne relation diplomatique avec la France, y compris la France, l'Union européenne. Et les décisions politiques en Haïti, ça doit passer exactement, que ce soit par les États-Unis, par l'Union européenne, le G7, parce qu'on a tous les ambassadeurs de ces pays en Haïti, l'Union européenne, la France, l'Espagne, le Japon, le Brésil, on a tout en Haïti qui se réunissent autour d'une association qui s'appelle le Core Group. Et le Core Group, un président, un député, un sénateur qui va prendre une décision cruciale pour le pays, il faut avoir l'aval du Core Group, de tous ses ambassadeurs. Sans l'aval de ses ambassadeurs, la décision ne va pas passer.
Les ambassadeurs, ils ne sont pas corrompus aussi?
Premièrement, c'est une forme d'ingérence, mais c'est une forme de corruption. Bon, avec Donald Trump maintenant, il n'y a plus de formalités diplomatiques. Directement, il y a un ambassadeur, l'ambassadeur américain en Haïti, il écrit sur WhatsApp, il dit « Bon, je veux que ce policier, ce directeur de la police démissionne. Je veux que ce ministre soit démissionné. » Il n'y a plus de formalités, écrit une belle lettre, un message WhatsApp, c'est effectif. Bon, maintenant, l'ambassadeur américain, lui, il est à la tête du Core Group. On doit suivre ses décisions, on doit suivre ses déclarations. Et après une réunion du Core Group, il y a certains qui ne sont pas d'accord. L'ambassadeur de France en Haïti n'est pas d'accord. Il le dit carrément sur les réseaux. J'ai pris une décision, l'ambassadeur de France ne me suit pas. Avec Donald Trump, c'est la politique démesurée.
Je voulais savoir si vous pensez, donc, dans un futur lointain, revenir en Haïti. Est-ce que vous aimeriez reprendre votre média d'avant? Parce que je ne sais pas trop quelle est l'audience que vous avez actuellement, si c'est plutôt français, si c'est en Haïti ou pas, pour justement plus avoir un impact concret dans le pays et sur, finalement, la démocratie, informer les gens là-bas.
Non, mais l'audience que j'avais, c'était 100% haïtien. C'était un média qui s'appelait Haïti News 2000, qui partageait que des informations en Haïti, parfois internationales, si c'est une grosse information, ça fait du bruit. Mais oui, franchement, c'est ce que je souhaite. Et je pensais que vous appréciez, on me pose souvent cette question, est-ce que si je pouvais retourner en Haïti, j'allais entrer dans la politique? Je dis toujours non, mais je suis journaliste, je vais rester journaliste. Et franchement, c'est ce que je souhaite, de continuer à informer le public par rapport à ça. Mais aussi, je souhaite aussi de ne plus informer. Bon, aujourd'hui, il y a un groupe de gangs qui va attaquer ce quartier. Aujourd'hui, il va y avoir un raid de la police nationale dans ce quartier. Parce qu'on en a marre de ça aussi, de toujours parler de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance. On veut pas, parce que c'est une très, 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 c'est un très beau pays. Et je vous le garantis, on est entouré de la mer, donc partout où vous allez trouver des plages dans les villes côtières, et c'est très très belle. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Jacmel, qui est la troisième ville du pays, et il y avait beaucoup d'Européens à l'époque. Avant les années 2000, il y avait beaucoup d'Européens. Jusque-là, je connais, parce que ma famille est grandie, on est tout proche d'une famille, beaucoup de Français, d'une communauté française, danoise et norvégienne qui sont restés en Haïti malgré la situation. Bon, Vous entendez parler beaucoup d'Haïti, mais c'est à Port-au-Prince qui est la capitale, qui est bloquée comme la capitale. C'est situé entre le nord et le sud, donc du coup, pour aller dans le nord, il faut passer par la capitale. C'est comme à Paris, partout où vous allez, il faut passer par Paris. Donc du coup, comme la capitale est bloquée, c'est la capitale économique et politique, bon, tout le pays est bloqué, mais dans le sud, dans le nord, il y a de l'ambiance, il y a encore de la vie, mais malheureusement, Port-au-Prince est bloqué. À Port-au-Prince, il y a l'aéroport international, donc du coup, tout le pays est bloqué. Mais je connais, c'est un très très beau pays. Ce que je souhaite, c'est de parler un peu de Jamel, du sud, du nord, de l'est, ce qu'on produit dans le nord, ce qu'on produit dans le sud. Comment c'était, on peut parler quelque chose comme ça pour exposer un peu, voilà, la beauté de ce pays. Mais c'est ce que je souhaite si je retourne en Haïti dans les prochaines années. De ne plus parler de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance, de l'ingérence. Bon, on va parler un peu, mais on parle un peu plus de la beauté de ce pays, des villes qu'on a. C'est un très, 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 c'est un très beau pays. Ouais.
Nous avons donc repris le train direction Arras et c'est comme ça que se termine notre petit périple à Paris. Merci de votre écoute.